Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Deeply Rooted, la 11e. On vous avait laissé avec une émission un peu particulière et un joli Facebook Live que vous avez apprécié, j'espère. Pour m'accompagner ce soir, toujours en compagnie de Joachim. Comment ça va, Jojo?
Tout va bien, je suis chaud pour enchaîner après cette émission un peu spéciale qu'on a faite et repartir sur de bonnes bases.
Et Momo?
Bah écoutez, moi je suis content toujours de tourner dans un décor de grand-mère, mais
l'ancienneté. Voilà, on avait quelques remarques sur notre décor. Mais voilà, on espère que vous avez aimé. On vous emmène donc à chaque fois dans une scène des États-Unis, on vous fait découvrir voilà, comment le son a émergé, qu'est-ce qui fait les particularités de ces scènes. Là, celle d'avant, on n'avait pas trop parlé de ça, donc, parce que c'était un peu hors série, on va dire. Aujourd'hui, quel est le programme ? Momo, est-ce que tu peux nous raconter ?
Ouais, bah aujourd'hui, on va s'attaquer clairement à la plus grosse partie du rap. On va parler des débuts du rap, en gros, on va
la parler fécondation. De la ville de New York.
On va même parler du début du hip-hop.
Oui.
On parlera peut-être de ce nom, maintenant qui est presque devenu un gros mot, dire hip-hop, ça se perd un petit peu.
C'est un peu con, parce que le hip-hop, ça englobe un tout, mais on va revenir là-dessus, mais c'est un peu la genèse du rap, quoi.
Et donc on ira à New York pour un premier épisode qui en appellera d'autres, parce que cette scène est beaucoup trop importante pour être traitée. On va devoir même réduire de toute façon. Comme d'habitude, on aura des choix à faire et des petites préférences, parce qu'on ne pourra pas faire toute une saison et de 10 épisodes de Deeply Rooted sur le sujet. Pour écouter les anciennes, on vous rappelle que vous pouvez aller sur notre page Facebook Deeply Rooted de l'émission et écouter nos podcasts sur Mixcloud également. On va se lancer un premier son de Curtis Blow qui s'appelle The Breaks.
Exactement, pour commencer sur les chapeaux de roue, un petit son un peu disco rap, très cool.
Vraiment les débuts quoi, vous allez kiffer pour sûr.
Et on se retrouve juste après, à tout de suite. De retour dans Deeply Rooted après ce son de Curtis Blow, The Breaks. On est toujours donc dans cette émission consacrée à New York. On va vous faire un petit retour d'abord pour poser les bases sur la ville en elle-même. Expliquer un petit peu la configuration de la ville, qui souvent va déterminer la musique qui va en ressortir, et puis bon, il y a ces histoires de quartiers, etc. Justement, les quartiers à New York, c'est à la fin du 19e siècle que va se décider cette division en 5 boroughs, que Momo va nous citer.
De tête, il y a par Harlem qui fait partie de Manhattan, il y a Manhattan, Bronx, Queens, Staten Island et Brooklyn.
Exactement.
Bravo, Momo, géographie.
Bravo. Et donc, on va voir que chaque arrondissement, donc ça correspond à des arrondissements, et ensuite il y a des sous-quartiers à l'intérieur, va avoir sa propre histoire, sa propre identité, et avoir des courants musicaux qui vont se développer plus dans un coin que dans un autre. Et c'est des noms qui vont revenir beaucoup dans les prochaines émissions, donc c'était pour resituer exactement. Au niveau de la configuration de la ville, donc, l'image qu'on en a aujourd'hui, c'est cette grande métropole, donc c'est la ville la plus importante des États-Unis depuis un moment déjà. Et très moderne, avec les gratte-ciels, etc. On va essayer de comprendre un peu comment c'était avant. Il faut savoir que c'est pareil, c'est au 19e siècle que ça devient une des grosses places fortes commerciales. C'est ça qui va provoquer, comme souvent, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent pour venir s'installer dans ce lieu-là. Le dynamisme de la ville va attirer du monde. Et donc justement, entre 1820 et 1890, il y a plus de 10 millions d'immigrants qui arrivent pour s'installer dans la métropole. Et qui fuit juste les crises économiques et les persécutions, notamment en Europe. Donc la première grosse vague d'immigration qui est composée à majorité d'Allemands et d'Irlandais. Irlandais qu'on va souvent retrouver pour les connaisseurs dans les films.
Gangs of New York à jamais.
Voilà, donc j'avais noté, je crois, en 1860, un tiers des New-Yorkais d'origine irlandaise. Ce qui est quand même assez énorme. Et donc, bien sûr, ils vont se retrouver dans certains quartiers, créer leur propre réseau et s'organiser entre eux. Il y a une nouvelle vague ensuite qui va arriver avec d'autres Européens qui vont être les Polonais et les Italiens, donc qui viennent d'Europe aussi. Bon, pareil, on les retrouve souvent dans les films, ça donne un peu. On les voit les quartiers avec les Irlandais.
Soprano.
C'est vrai que souvent,
là, on cite.
C'est New Jersey.
On cite que des films sur la mafia, mais bon, il n'y avait pas que ça, bien sûr. Et donc beaucoup d'Afro-Américains qui vont arriver ensuite, mais là en provenant d'autres États des États-Unis. Une migration plutôt interne. Et donc ça va donner l'image de cette ville qui existe encore aujourd'hui, très diverse, où donc la moitié des personnes qui naissent au XXe siècle ont au moins un parent d'origine étrangère. Et voilà, donc bon, après, pour avancer un peu dans le temps, il y a les crises économiques qui vont arriver en 29, surtout dans les années 60, avec là, du coup, un coup de mou pour la ville, beaucoup de gens qui partent, les emplois industriels qui disparaissent. Et là commencent un petit peu les problèmes de justement criminalité.
Oui, il y a la ghettoisation, quoi.
Voilà, exactement. Donc il y a des nouveaux quartiers qui se forment, surtout dans les années 70, etc. Et donc il y a les premières tensions raciales aussi avec les émeutes qui se manifestent, notamment justement dans le quartier de quartier très black afro-américain, avec beaucoup d'afro-américains à Harlem, avec donc des mouvements pour les droits civiques, soit pacifiques, soit plus violent.
Contestataire. Ouais.
Voilà, exactement. Et donc Harlem a été proclamé cœur spirituel de la protestation et du mouvement noir.
C'est là-bas où il y avait les Black Panthers, ça émergeait d'Harlem d'ailleurs, non? Je crois, j'en suis pas sûr.
Il y avait Malcolm X, Nation of Islam,
Miss Farrakhan, Gang, tout ça. Enfin bon.
Enfin donc voilà, donc là ça donne un peu l'image de cette ville. Donc là on arrive aux années 70 qui va correspondre un peu à l'émergence du rap. Au niveau musical qui nous intéresse aussi donc tout particulièrement, il y a l'arrivée de ce bon vieux jazz donc qui se fait une place dans les années 20 environ, le swing les années 30, etc. Donc ça va se poursuivre ça pendant des années avec plein de grands noms. Jojo, des grands noms de jazzman new-yorkais, tu peux nous en dire 2-3.
Ouais, New York,
même 2-3, c'est difficile de se restreindre.
Je crois que Coltrane il vient de New York. Miles Davis, mais alors pour le coup là tu me poses un peu une colle parce que je connais pas forcément l'origine des jazzmen, mais je sais qu'il y a plein de clubs de jazz, tu vois, c'était très connu, le Hot Club, la 51ème rue, machin, il y a plein de. Enfin, ça se développe à fond.
Ça va devenir vraiment un berceau de ce courant musical afro-américain aussi.
Je sais que c'était plus Chicago, enfin je sais pas, mais. Je sais pas du tout.
Non, justement.
Les clubs, je pense que c'est plus, il y a vraiment plus à New York, quoi, que ça. C'est
ouais.
Mais à Chicago aussi, hein, c'est sûr qu'il y en a. Mais...
Et donc le jazz, et ensuite beaucoup d'autres courants. Donc c'est une ville où la créativité musicale est particulièrement importante. Donc il y a plein d'autres courants qui vont influencer plus ou moins le hip-hop. Hein, on va le voir. Donc par exemple dans les années 50-60, Greenwich Village avec Bob Dylan. Donc avec les sons là qui étaient en plus intéressants parce que c'était les premiers sons justement plus une protestation qui
battait contre les inégalités. Je peux pas dire qu'il y a une influence directe, on va dire quelque part que on est dans le même type quand même finalement, c'est très indirect en fait je pense l'influence, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, on appelait ça des protestons, ou c'était des musiques où il y avait vraiment le texte qui était plus important. Donc voilà, il y aura une influence directe à ce niveau-là, au niveau des textes et de l'importance du texte, quoi.
Ouais, à ce même moment que donc il y a ces sons qui protestent contre les inégalités, le racisme, contre le modèle de société plus globalement qui était très puritain, y a Martin Luther King qui se bat aussi de son côté justement pour l'obtention des droits civiques. Il y a le rock qui arrive dans les années 60, bon là qui aura peut-être moins d'influence directe, quoique on y reviendra tout à l'heure. Et ensuite avec le soul et le funk également qui vont arriver. Et dans les années 70, vers le milieu, il y a deux courants, donc le hip-hop qu'on va parler, et le disco, qui va être le gros truc qui va exploser, que tout le monde va écouter, qui va être dans les clubs, dans tous les clubs, etc. Et qui
la tectonique de l'époque, que ça dure 5 ans, mais...
qui a un mélange de beaucoup de choses, quoi, de soul, de funk, de pop, avec des cuivres, des cordes, etc.
Pour moi, c'est surtout c'est de la funk, soul, en mode vraiment très pop, quoi.
Disco.
Donc ça va exploser de ce que j'avais vu plutôt dans le Bronx justement, qui est paradoxalement un quartier qui est détruit par le chômage, la pauvreté, la misère à ce moment-là. Et autre paradoxe, c'est que il n'y a pas du tout de paroles, c'est pas du tout des choses revendicatives, quoi. Le disco, c'est vraiment fait pour se vider la tête.
Ah oui, non, complètement.
Et s'amuser, on n'est pas du tout dans des paroles revendicatives donc, et donc à ce moment-là, il y a le hip-hop, donc là tu vas nous en parler Joachim, qui arrive à peu près dans pareil, années 70.
Ouais, au début des années 70, je vais vraiment venir à la genèse. Donc en fait, déjà pour revenir un peu sur les influences, il y a vraiment diverses choses, c'est vraiment assez varié au final. On peut citer parce qu'en fait le hip-hop c'est vraiment né dans la rue. C'est-à-dire que c'est des soirées qui se passaient dans la rue avec un sound system et tout. Le côté rue, il y a ce truc des chanteurs de doo-wop, tu sais, on les voit des fois dans des films, tu sais, ils sont comme ça, ils font des petits quatuors et tout, c'est assez drôle, mais en fin de compte, quelque part, il y a une filiation quand même dans cette musique de rue, quoi. Il y a en Jamaïque, il y avait ce qu'on appelait les toasters, en fait, c'était des mecs qui ambiançaient, tu vois, ils passaient des sons et des sortes de DJ quoi, puis ils ambiançaient, ils racontaient de la merde dessus, parfois c'était un peu engagé, parfois c'était juste des conneries, mais on s'en fout. Mais il y a ce côté toaster, ça a finalement influencé les premiers rappeurs. Et il y avait aussi, pour le coup, plus du côté texte et tout, il y avait Jill Scott Heron qui considère un peu comme le parrain du rap, quoi. Genre, je crois qu'il disait, c'est ça un peu qu'on disait, le Godfather of Rap. Et genre lui, il faisait vraiment des sortes de discours musical, enfin, avec un fond musical, quoi. Genre, bon, le morceau le plus connu, c'est The Revolution Will Not Be Televised, donc voilà, très, très engagé. Très très bon, hein. Franchement, Jill Scott Heron, c'est du lourd. Ça se fait à New York pour le coup, je crois. C'est plutôt Chicago, il me semble, mais voilà, c'est un peu pour faire l'ensemble des influences qui ont mené à ce truc-là. Et donc, le hip-hop en soi, il naît début des années 70, et c'est un mec qui s'appelle DJ Kool Herc. En fait, il fait ce qu'on appelle des block parties, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment des soirées qui se passent, ils font la teuf dans la rue, quoi, ils posent leur sound system. Et lui, il y a un truc qu'il remarque, c'est qu'en fait, les gens, quand ils dansent, ils kiffent danser sur les breaks de percus. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend deux platines, il utilise deux fois le même vinyle, et puis il fait tourner en boucle comme ça ses breaks de percus. Il appelle ça le merry-go-round. Donc, ça tourne en rond de manière. Voilà, tout le monde kiffe, quoi. Donc, c'est l'invention du break, et en fin de compte, c'est l'invention du hip-hop.
Sachant qu'ils n'avaient pas les mêmes machines à l'époque non plus.
C'était fait totalement artisanalement. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a quand même une date de naissance et un lieu de naissance. Enfin, en tout cas, dans la légende, tu vois, après, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais c'était un 11 août 1973 au 1520 Sidgwick Avenue, donc dans le Bronx. Donc voilà,
c'est marrant d'avoir une date aussi précise pour un
truc. Ouais, c'est ça que je trouve drôle, alors qu'au final tout s'en mêle et qu'on n'a pas de. Ça reste au niveau des dates, de manière générale, ça reste assez approximatif.
Oui, bien sûr, il y a forcément quelqu'un qui
est. Sachant que c'est resté dans la street, tu vois, qu'il n'y a pas d'enregistrement, etc. Donc c'est ça qui est drôle. Donc voilà, donc c'est Kool Herc qui devient à partir de là la grosse star de tous les ghettos, surtout du Bronx, parce que ça part vraiment du Bronx.
Et du coup, ça donne quoi sa musique exactement, comme tu dis?
Bah, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas de traces. Ouais.
On peut pas trouver forcément un son de couleur que...
Non, je crois qu'il y a peut-être des enregistrements qui ont été filmés, etc., mais avec une qualité dégueulasse, quoi. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment un pionnier, qu'il y avait beaucoup de breaks, etc. Et c'est aussi le premier qui a ramené donc, son rappeur, qui est Coq Laroc, qui était une sorte d'ambianceur, plus qu'un rappeur tel qu'on les connaît aujourd'hui. En fait, c'est une sorte de Lil Jon parce qu'il buguait des trucs. Lil Jon s'est inspiré des pionniers, quoi. Donc voilà, donc ça, là aussi, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur les toasters en Jamaïque, quoi. Donc voilà, Kool Herc, la grosse star au début, les premières années. Kool Herc qui se fait planter en fait assez rapidement, parce qu'il y a aussi cette culture des gangs, justement, comme tu disais tout à l'heure, la criminalité et tout. Donc il y a cette culture des gangs à New York, dans le Bronx. Et
donc ouais, il faisait la fête, mais ouais, il se fait planter, ça rappelle quand même que c'est pas... Il y a plein de mecs qui sont pas là pour rigoler.
Et ouais, ouais, non, c'est ça. Et du coup, il y a deux de ses rivaux qui vont prendre sa place, et qui vont se tirer un peu la bourre, qui sont Grandmaster Flash et Afrika Bambaataa. Et après, il y a plein d'autres petits trucs qui gravitent, hein, mais là, on va s'étendre un peu plus sur Grandmaster Flash et Afrika Bambaataa dans la partie suivante. Et
Du coup, on va s'écouter deux sons justement des deux bonhommes.
Bah, donc, les deux plus gros classiques. Hein,
qui ont un peu révolutionné le game déjà à l'époque. Donc, Grandmaster Flash et The Furious Five avec The Message, et Afrika Bambaataa et The Soul Sonic Force pour Planet Rock. Et on se retrouve après pour l'autre partie dans Deeply Rooted. À tout de suite. De retour dans Deeply Rooted, on est toujours sur la scène de New York pour vous présenter un peu l'émergence des personnages. On vient de s'écouter Afrika Bambaataa et The Soul Sonic Force pour Planet Rock. Et juste avant, c'était Grandmaster Flash avec The Message. On reviendra sur ce son aussi qui a traumatisé le game à l'époque. Et Momo, donc tu vas nous parler de Grandmaster Flash. Donc là, on était juste avant, au moment où on nous parlait de Kool Herc, qui faisait des block parties dans son coin et qui a remixé de funk, des trucs comme ça. Et toi, donc, tu vas nous parler du personnage qui arrive, Grandmaster Flash.
Ouais, bah, de toute façon, concrètement, ils appellent ça la trinité du rap, c'est DJ Kool Herc, dont Jean-Jean vous parlait juste avant, Grandmaster Flash et Africa Bambaataa dont je vais vous parler, donc on va s'occuper du premier. DJ Grand Maître Clignote, si on traduit en français, donc pareil, lui c'est un mec qui s'est lancé dans les block parties, c'est fête de quartier où le but c'est de rassembler un peu tout le monde, faire des barbecues, mettre de la grosse zik, ambiance et le quartier quoi, instaurer une ambiance festive pour un peu changer du côté miséreux et violent qui règne dans ces quartiers là. Grandmaster Flash lui est né à Manhattan, donc Harlem tout ça, mais il a aussi grandi dans le Bronx. Donc ça rejoint, DJ Kool Herc. Et lui, ce qu'il a fait en gros pour le hip-hop, si on peut dire ça comme ça, enfin pour le hip-hop et pour le rap, c'est que c'est un mec qui avait un talent inné pour la manipulation des vinyles. Donc il a fait des études d'électronique, c'est marrant.
C'est un virtuose,
ouais. Ouais, littéralement, c'est un virtuose des platines. Et quand au début, les DJ ou apprentis DJ, bah eux ils mettaient un son, ils mettaient aller deux vinyles, ils scratchaient même pas dessus, genre ils passaient le son en
plus. Non, le scratch n'existait pas.
Oui, voilà, ça n'existait pas quoi.
Justement, en fait, ce qui est marrant, c'est que le scratch, tu vois, Grandmaster Flash qui était un virtuose, et une histoire un peu drôle, c'est qu'il y a un de ses apprentis qui s'appelait Grand Wizard Taylor.
Sacré nom.
Sacré nom. Lui, en fait, il a découvert le scratch par erreur.
Ah, c'est lui, oui, il y a sa mère qui a rentré.
Ouais, c'est ça, genre.
Ah, je croyais que c'était Grandmaster Flash, non, c'est...
Non, justement, tu vois, Grandmaster Flash qui est un putain de virtuose, genre, ça le fout le seum que le scratch, qui est quand même un truc très représentatif, qui a beaucoup marqué le hip-hop, qui a resté après des. Enfin, longtemps après, quoi, c'est un truc, des parties très importantes de la musique hip-hop, quoi. Et que ça, ce soit pas lui, finalement. Le truc complètement par erreur.
C'est la mère qui rentre dans la chambre, et il sursaute, ou je sais pas
ça,
quoi.
C'est ça, du coup, il touche son vinyle, ça fait un petit.
Et après, c'est sympa, et. Bah comme le Screw and Shop dont on avait parlé pour Houston, c'est des accidents qui donnent des trucs sympas.
Je crois que le feu a été découvert aussi. Comme ça aussi. Hein. Doron qui est rentré dans une chambre et. Non, je plaisante.
Qui quoi
la création du feu, la découverte du feu. Mais alors, si, en gros, il a quand même créé des techniques quoi. Je veux dire, même si c'est Grand Wizard Théodore, j'adore ce nom, qui a découvert le truc, lui il a vraiment magnifié. Fait grandir ces techniques là, le scratch, le turntablisme, tout ça. On vous mettra un petit glossaire des termes parce que c'est plutôt technique, je ne maîtrise pas forcément tout. Grandmaster Flash il mixait avec ses coudes, avec ses mains, il mixait à l'envers, il scratchait, pardon, on va pas mixer parce que c'est différent, donc voilà. Sacré, c'est pionnier à ce niveau là, il a commencé à faire de la musique. Littéralement, en fait, il s'est servi du scratch et des vinyles comme un instrument, au final. Mm-hmm. C'est ça qui est fou. Et du coup, je peux pas parler non plus de ce mec-là, même si on peut en parler des heures, de tout ce qu'il a fait. Et même récemment encore, genre pour la petite anecdote, il a reçu ce qu'on appelle le prix Nobel de la musique. Récemment, c'est organisé par des... C'est en Suisse. Et chaque année, il récompense des mecs qui ont fait avancer la musique dans l'histoire. Et il l'a reçu cette année. Et c'était le premier rappeur à être Hall of Fame. Rock'n'Roll Hall of Fame,
un rappeur, d'ailleurs.
Comment ?
C'est ce que j'allais dire, c'est ça qui est intéressant.
Oui,
c'est pas un rappeur, c'est un DJ.
Ouais,
À l'époque, on n'a pas encore
rappeur. À l'époque, c'était surtout les DJ. Il y a des rappeurs, comme je disais, il y avait Coke, La Rock, etc. Et ça se développait.
Plutôt...
Les rappeurs étaient un peu en retrait. La star, c'était le DJ. Quoi.
Il venait accompagner le DJ qui, lui, vient balancer du son. Et l'autre, il venait baragouiner des trucs pour mettre l'ambiance. Quelque
chose qui s'est perdu avec le temps, en fait, dans l'histoire du rap. D'ailleurs, le DJ, ça s'est un peu effacé
complètement.
Avec le temps. Et,
ça garde un rôle très important.
C'est plus de scène, quoi. Au final, il y a les DJ sur scène, mais.
Mais les DJ, on pourrait avoir un sujet là-dessus aussi, sur l'évolution du statut entre guillemets DJ avec le temps. Mais bon, on peut pas s'éterniser là-dessus. Mais comme vous disiez justement, des rappeurs, il y a des rappeurs qui accompagnent Grandmaster Flash, et pas n'importe qui, parce qu'il avait toute une team avec lui. Donc je vais vous donner les noms. Donc déjà, le nom du groupe, c'était Grandmaster Flash et The Furious Five. C'est un peu un nom d'Avengers, de Marvel, quoi. Et il y avait un rappeur qui s'appelait DMF, il y avait Melly Mel, Cowboy, Kid Creole, Scorpio et Rhyme. Donc ils avaient tous un peu leur personnalité, tu vois. Melly Mel qui était connu, genre.
Contre là, ça fait 6 ans.
Non, mais DMF, je suis con, ouais, c'est Grandmaster Flash. Enfin, c'est Grandmaster Flash, oui, mais vous savez les notes, le direct, tout ça, on sait plus trop ce qu'on raconte. Donc, maintenant que vous avez les noms et vous savez qu'ils forment un groupe, faut voir un peu où ils sont allés. Au début, c'était un succès local. C'est vraiment dans les block parties de ce genre de choses. Et ils ont sorti une chanson après, qui a explosé juste après que Sugar Hill, C'est un autre groupe de rap dont on va vous parler après. On a une chronologie un peu particulière. Sugar Hill Gang, qui a sorti Rapper's Delight, qui est un des premiers tubes du rap aussi.
Et le premier tube, ouais.
Ouais.
Concrètement.
Et ils se sont permis de sortir leurs chansons, parce qu'ils faisaient des petits trucs localement, mais ils ont sorti leur chanson The Message après, une fois que Sugar Hill Gang a explosé. Et The Message, c'est non seulement un classique du rap, mais ça marque un tournant dans les sujets abordés dans le rap, parce que jusque-lors c'était très festif, en référence aux Block Parties encore une fois, mais là dans le The Message c'est vraiment une description du ghetto, un récit de la vie au quotidien, de ce que c'est que de vivre à Harlem, dans le Bronx, dans le Queens, etc. Un message à la jeunesse, en leur disant les mecs, il y a des problèmes de drogue, d'argent, etc.
C'est le texte qui devient plus important. Ouais, quoi.
Pour le coup, pour une fois...
Ça, c'est vraiment révolutionnaire.
Ah oui, pour le coup. Et puis, il y a tout un clip, le clip est fantastique. Quoi, genre. Enfin, ils ressemblent pas à des rappeurs de maintenant, c'est très drôle. Ils sont en petite veste en cuir avec des bottines et tout, c'est... Ça...
Et je crois que Cowboy, après ça on le sait pas vraiment, mais je crois que c'était le premier à avoir dit dans un son le mot hip-hop.
Ouais, le mot hip-hop, parce qu'il l'avait, je lui en parlais à je sais plus qui, et c'était pour expliquer en fait hip-hop. Il avait ressorti ça par rapport à un pote qui était à l'armée, et il lui avait ressorti le hip-hop, hip-hop, ouais, parce que ça correspondait à la marche des soldats quand ils marchaient, c'est tchak, tchak, tchak.
Enfin bon, et du coup, à ce moment-là, parce qu'on parle hip-hop, mais il y a les graphes, etc., c'est après, c'est au même moment?
Non, ça arrive un peu au même moment, tout ça, c'est vraiment plusieurs disciplines. En fait, il y a le rap qui est une discipline du hip-hop. Dans le hip-hop, il y a le DJisme, le graffiti, le b-boy, enfin la
voilà,
danse.
Mais chronologiquement, là, par exemple, The Message, c'est quelle année?
82.
C'est plus tard, en fait. On va y revenir après. C'est en gros que le rap dans les studios, dans la musique enregistrée, il arrive un peu plus tard, quoi. Donc tous ces mecs là, tu vois, genre quand Master Flash, c'était dans les années 70, au milieu des années 70, et il s'est fait connaître, c'était une star dans son quartier, mais il a enregistré ses tubes finalement début des années 80.
D'accord.
Ouais, c'est arrivé un peu, il a été connu localement, comme je disais, il s'est fait connaître et explosé après. Ils ont explosé après ça. Et du coup, il y a un autre mec dont on va parler.
Ouais,
exactement, Afrika Bambaataa, qui lui, pareil, c'était... Il était DJ aussi, ils ont un peu tous commencé comme ça. Il était dans les Block Parties aussi, dans le Bronx et un peu dans tout New York. Et lui, il faisait pas de rap, quoi. Il a produit des groupes de rappeurs, notamment des groupes qui tournaient avec lui qui s'appellent Cosmic Force ou Soul Sonic Force. Et son but à lui, c'était. Il avait un but plus spirituel. Son but, en gros, c'était de partager sa vision de la musique avec la population afro-américaine de son quartier, essayer de faire en sorte que. Je dirais pas que les gens s'en sortent, mais c'était de créer une espèce de maelstrom, genre de vivier d'émulsion musicale et d'intérêt. Mmh. Tout le monde se retrouve autour de ça. C'est comme ça qu'il a fini un peu par créer la Zulu Nation au final.
Ouais, c'est ça. C'est un truc d'émancipation.
Ouais, voilà, totalement. Lui, c'est vraiment. Il le veut et en même temps, c'est aller plus loin, je pense, que ce qu'il voulait faire. La Zulu Nation, c'est ultra poli. Enfin, ultra
la Zulu Nation, oui, de ce que j'ai compris, il regardait un film justement des années 60, je crois, qui s'appelait. Zoulou, il me semble pas qu'il racontait l'histoire des combats entre l'armée britannique et en Afrique du Sud. Et oui, donc il y a une espèce de révélation sur la solidarité des communautés noires. Et donc après, il a essayé de transmettre ses messages, comme tu disais, dans ses textes.
C'est ce qu'il fait. Il y a aussi tout ce délire de... Déjà, bah, même avec DJ Kool Herc ou avec Afrika Bambaataa et Grandmaster Flash, il y a ce délire de posse. C'est un terme entre guillemets technique du hip-hop, du rap, mais c'est le fait d'avoir ton groupe, un collectif, un clan, où les mecs font un peu de tout, parce que, comme je le disais, Afrika Bambaataa, lui, il est DJ, mais avec lui, il y a des rappeurs, notamment Globe, où c'est un mec qui écrivait les rimes pour les autres, c'était un peu leur ghostwriter.
Ouais, si mais est-ce que t'as un peu Gang aussi qui est resté, ouais. À la base,
bah, c'est Afrika Bambaataa,
il avait cette image de gros... Enfin, tu vois,
Gang, c'est on se serre les coudes, parce que pendant ce temps-là, comme on disait aussi au début, c'est, enfin, la pauvreté, elle est là aussi, donc c'est, s'il ne s'entraide pas, il...
Ouais, c'était, non, mais oui, ce sentiment-là d'entraide et cette envie-là, oui, ça faisait partie de son state of mind, quoi. Musicalement, en tout cas, c'était un mec qui était très influencé aussi par le funk et le jazz, qui est normal, comme on le disait au début.
L'électro aussi.
Ouais, l'électro, ouais, c'était avec Kraftwerk.
Ah bah, le morceau Planet Rock, ouais. c'est un remix de Trans Europe Express, je crois, de Kraftwerk, quoi.
Exactement.
Lui, de toute façon, il a une legacy, quand même, un héritage, quoi. Mais pour beaucoup, il y a en tout cas ce qu'on appelle l'électro-funk, l'électro-rap. Tu vois, il y a Egyptian Lover, des trucs comme ça, je sais plus quoi. Enfin, ouais, je me souviens plus de tous les noms, tu vois, mais même, tu vois, au niveau de la Miami Bass, on en a un peu parlé,
ouais,
il y a un enfant, tu vois, genre, enfin tout ce qui est le côté un peu plus instrumental du hip-hop, en fait, ça vient beaucoup de lui, quoi. Et c'était vraiment, enfin tu vois, t'as des morceaux où tu sens que c'est aussi assez virtuose dans le terme plus de DJ, quoi.
Moi je trouve ça quand même, tu dis, un côté actuel dans ce qu'il avait fait, c'est quand même marrant. De là à dire que c'est un visionnaire, si on peut dire que c'est un visionnaire, c'est un autre débat. Et pour dire à quel point la Zulu Nation ça a été loin aussi, au-delà de ça, c'est qu'il y a des groupes ultra connus comme Tribe Called Quest et De La Soul qui sont retrouvés aussi, qui ont perpétué l'héritage, qui sont retrouvés sous cette bannière-là.
Groupe qu'on évoquera dans le prochain épisode.
Ouais, dans le prochain épisode, c'est De La Soul et Tribe Called Quest.
Déjà là, c'est assez dense en information, mais on est obligé d'avancer.
Donc, deux monstres, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash. Allez aussi vous documenter dessus parce qu'on en a fait qu'un peu résumé. Et on va s'écouter.
Bon, c'est une nouvelle pause musicale.
Ouais.
Tu voulais ajouter quelque chose?
Non, bah oui, parce que quand même, en fait, ce dont on parle depuis tout à l'heure, comme je disais, c'était plutôt on est resté dans la rue. Et que ce qui est important, c'est justement de reparler de justement cette histoire de Sugar Hill Gang, qui a sorti son gros tube Rapper's Delight. Et notamment en fait parce que le rival à l'époque, le genre rival, c'était la disco.
Ouais.
Tu vois, ça restait un phénomène de rue, le rap, le hip-hop, mais ça rivalisait pas du tout en termes de vente au début. En termes de musique enregistrée, c'était vraiment la disco qui marchait, quoi. Donc les premiers trucs, t'as vraiment Curtis Blow qui avec le morceau qu'on a mis en ouverture, c'est ça qui fait un peu monter le truc. Et Sugar Hill Gang, c'est vraiment le tube qui arrive en 79.
Ouais.
Et en fait voilà, Sugar Hill Records, c'est aussi le premier label qui a.
Oui, c'est le premier rappeur, enfin un premier label de rap qui va s'imposer.
C'est ça, c'est une businesswoman, enfin c'était une chanteuse de blues, je crois, à la base, qui s'appelait Sylvia Robinson, qui avait vachement de flair en fait, et elle a un bon sens du business, quoi, genre. Et elle a rechopé du coup Grandmaster Flash, qui était sur un autre label, qui gagnait pas assez de thunes, c'était un peu sucré ses royalties et tout. Et elle l'a récupéré, elle a sorti, c'est là-dessus qui est sorti The Message, etc. Donc vraiment gros, le label le plus important de ses
projets. Sugar Hill Records. Ouais. Ok, ça va, merci pour les précisions. On va se faire donc la petite pause musicale avec Run-DMC, Walk This Way. Et on se retrouve pour la dernière partie dans Deeply Rooted. A tout de suite. Vous êtes toujours sur Deeply Rooted dans l'émission spéciale New York, la première. Vous venez de vous écouter donc Run DMC avec Walk This Way. Du coup, on a évoqué la Sainte Trinité, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash et Kooler, donc qui étaient trois DJ. Place aux rappeurs maintenant, ils vont prendre le pouvoir. Bah, c'est toi, Momo, qui va nous raconter cette histoire.
Yes, c'est un peu ça au final. Concrètement, c'est l'avènement des rappeurs sur les DJ. Et comment ça se passe? Bah, c'est avec la création de Def Jam. Label ô combien mythique. Bah ouais.
Non mais je veux dire, c'est vieux, quoi, quand c'est vrai que j'avais pas calculé que c'était depuis autant de temps. Maintenant ils sont encore là, à la mode et tout, quoi.
Bah ouais, ils ont super
duré. C'est probablement le label le plus important.
Ouais, c'est le label, c'est la moderne
du rap. La longévité, tout ça, quoi.
Donc c'est 83, c'est le bébé de Rick Rubin, un étudiant amateur de rock, qui faisait ça dans sa chambre, et de Russell Simmons, un...
Rothel,
on va dire entrepreneur, manager, mec du milieu du hip-hop et de la communauté afro-américaine, qui se sont rencontrés par le biais du légendaire aussi DJ Jazzy Jay. Et ils se sont dit, bah écoute, on va mélanger le meilleur des deux mondes et on va créer ce label Def Jam pour imposer notre vision dans le rap.
Il faut dire quand même que Russell Simon, c'est celui qui avait déjà été bossé avec Curtis Blow.
Ouais.
Dont on a évoqué tout à l'heure.
On a écouté, ouais.
Et juste le titre t'en parle parce que Curtis Blow va être un des producteurs de Run-DMC, légendaire groupe aussi dont les gens ont déjà entendu parler. Et pour vous resituer, Curtis Blow, dont on vous a parlé au début, a produit pour Run-DMC. Russell Simmons est le manager du groupe et ils sont liés à Def Jam. Donc c'est vraiment une histoire où tout le monde est un peu lié, où ça se recoupe. Et pour vous dire même, dans Run-DMC, il y a le frère de Russell Simmons. Donc c'est vraiment un petit cercle au final. Run-DMC, pour le coup, comment ne pas s'attarder sur eux, enfin, deux mecs, c'est devenu c'est les premiers rockstars du rap, en fait. Donc non seulement dans le côté musical, ils ont tracé vraiment un sillon pour les générations futures. Et en plus de ça, en termes d'images proposées, c'était des monstres. Je veux dire, les mecs ont fait une collab avec Adidas. C'est les premiers rappeurs à passer sur MTV, c'est les premiers rappeurs à avoir un album disque d'or, les premiers rappeurs à avoir un album disque de platine. Ils collaborent avec Aerosmith.
Ouais, c'est vrai, c'est un peu un truc, enfin, c'est un tournant vraiment, ils représentent un tournant parce que c'est devenu les premiers rockstars qui ont vraiment fait passer un cap au hip-hop, quoi.
Ah, c'est le passage de l'underground, entre guillemets, du local.
Parce que les clips tournent déjà à ce moment-là, ils sortent des clips, etc., qui marchent.
Ouais, ça marche, mais le fait de passer sur MTV.
Oui, voilà, donc eux, c'est eux qui commencent à passer sur MTV.
Parce que jusque dans les années 2000, là, on s'avance un peu dans le temps. Mais c'était je dis pas que c'est MTV qui faisait la pluie et le beau temps, mais d'avoir ton clip sur MTV, c'était assuré d'être connu, quoi. Et donc voilà, ils sont un peu les premiers partout.
Ils parlent un peu au grand public, quoi, ce qui était pas trop le cas avant.
Ouais, c'est ça, il y a plein de gens qui se reconnaissent aussi bien dans leur communauté que dans les gens qui écoutent pas forcément du rap. Et il y a aussi le fait que dans la musique, c'est un peu un poil teinté de rock. C'est là où on reconnaît la patte de Rick Rubin, qui fait peut-être que ça parle à plus... une communauté plus large pour le coup.
Vu qu'il y avait aussi du rock, on parlait des Beastie Boys, qui faisait aussi parler de Def Jam et qui est parti de Def Jam.
Ils arrivent après ou c'est à peu près la même période?
Bah, c'est à peu près la même période. En fait, eux, c'était un groupe de punk à la base complètement.
C'est une bande.
Et quand ils ont été récupérés, en fait, je crois qu'ils avaient fait une démo de rap. Je crois que c'est un truc comme ça, ils avaient fait une démo de rap pour se marrer. Et finalement, c'est ça qui a été repéré.
C'est des blancs déjà signalés dans le milieu qui faisaient, comme tu dis, du punk rock et qui ensuite sont. Enfin, c'est intéressant, mais on y reviendra peut-être.
À la base, ils avaient fait une démo de rap pour se marrer. Enfin, il me semble vraiment que c'est ça. J'ai pas revérifié, mais de tête, je crois que c'est ça. Et ils se sont fait repérer sur cette démo et puis finalement, ils se sont dit, bah, tiens, on va faire du rap. Et ça a très
bien. Et c'est totalement transformé d'ailleurs au final. Mais Def Jam, pour le coup, c'est trois. Au-delà de leur créateur, c'est Run DMC, Beastie Boys. Et le petit dernier qui est LL Cool J, qui est vraiment pareil, représente le fer de lance de Def Jam quand il sort. C'est en 84, je crois, qu'il sort I Need a Beat.
Comme tu disais tout à l'heure, le passage de témoin, enfin le fait que ce soit les MC qui prennent le dessus, LL Cool J, c'est vraiment aussi un des premiers très virtuoses au micro, quoi.
Ouais, c'est clair, c'est vraiment ultra punchy, il y a toute une image derrière lui, il est solo, c'est un petit jeune de New York.
Le charisme et tout aussi.
Ouais, très charismatique, et c'est vraiment plus un mec qui a tellement duré. C'est le premier MC, quoi. Enfin, c'est pas le premier Master of Ceremony, mais il a tellement duré dans le temps, il a fait toutes les disciplines du rap, de la chanson, de l'acting, tout ce que tu veux. Que...
Au niveau parole, le Def Jam, c'est quoi? Est-ce qu'on reste dans les textes à message comme Afrika Bambaataa et Grandmaster Flash, ou alors c'est plus divertissement?
C'est un mélange.
Vu que c'est plus grand public, j'imagine que c'est...
C'est un mélange entre les deux, ça a parlé du quotidien et de côté festif, surtout LL Cool J qui est très proche des femmes. Bah, LL Cool J, ça veut dire Ladies Love Cool Jams, donc... on est un peu entre les deux, mais c'est quand même un peu c'est punchy, quoi, au final.
Après, comme le rap prend plus de place, tu vois, on peut ressentir en fait vraiment le milieu d'origine et c'est pas forcément directement engagé, etc., mais t'entends leur provenance, etc.
Oui, bah, déjà rien que de les voir, etc., apparaître dans les clips, tourner comme tu dis, faire des disques d'or alors que c'est des gars souvent de la rue, comme type de quartier, etc., rien que de les voir, comme tu dis, c'est un message envoyé, quoi. Assez fort, du coup,
Run DMC, ça reste du rap à message quand même. Ils veulent parler à leur communauté, mais LL Cool J, c'est pas forcément dans l'absolu, quoi. Beastie Boys. Et Def Jam aussi, c'est une réussite parce qu'il y a toute une vision déjà à l'époque de marketing où les mecs ils ont un logo qui a perduré dans le temps, c'est le même logo encore. Ils avaient, je veux dire, les Beastie Boys à un moment, ils avaient lancé une mode où ils avaient des chaînes avec le petit logo des Volkswagen. Des voitures Volkswagen accrochées au bout, ça a décroché genre toute une fan mania autour de ça et tout.
Ouais, au niveau image, business, comment ils arrivent à vendre le truc, c'est une réussite.
C'est une réussite et ça l'est toujours, ça fonctionne toujours, tout va bien pour Def Jam.
Ok, donc ça ouvre la voie à ce qu'on va appeler des fois l'âge d'or du rap après avec.
Ouais, c'est ça, il y a un autre truc qui est important, je pense, de mentionner, c'est le film Wild Style qui sort, je crois, en 83. Qui est une sorte de document, enfin docu-fiction, on sait pas trop quoi, mais en gros ça te montre vraiment tout le style de vie, enfin tout ce qui se passe dans le Bronx et même après ailleurs dans New York. Donc que ce soit le graphe, la danse, les MC, les DJ, etc., le beatbox, en gros toutes les disciplines du hip-hop sont montrées à travers le style de vie, quoi, vraiment de ces mecs-là.
Ok, donc là, ouais, donc tous ces gens-là, donc on a évoqué dans cette émission, parce qu'on va devoir s'arrêter malheureusement, on pourra pas évoquer tout le monde ce soir. On verra dans la prochaine épisode, mais tous ces gens-là ont ouvert la voie, on va dire, pour ceux qui vont arriver.
En gros, là, on fait une sorte de préquel. Et à partir en fait de Run DMC, là, ça explose complètement, et là, ça devient une effervescence de talent, de mecs qui vont s'engouffrer dans le truc.
Oui, tout à l'heure, on essayait de dire tous les noms des gens qui y avait après. En fait, c'est énorme.
C'est casse-tête.
Si massif, New York.
Donc ben, on vous donne rendez-vous d'ailleurs à la prochaine émission pour continuer sur la scène de New York. On fera un deuxième épisode avant la coupure de cet été. Et on espère que vous serez nombreux, que vous avez apprécié. N'hésitez pas, on enverra des infos sur notre page Facebook DP Routier de l'émission pour compléter. Essayer d'être plus complet sur les noms, les albums qu'on peut évoquer, les sons, les rappeurs, les DJ, etc. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager les podcasts aussi qui sont à retrouver très rapidement sur Mixcloud. Et on va vous souhaiter une bonne soirée en terminant sur un son de LL Cool J, justement Annie de Beat.
Exactement, gros tube, kiffé.
Merci à vous.
Yes.
À la prochaine, ciao.
Plus tard.